cours de philosophie de l'éducation par le père Philippe Arimoux, le 23 janvier 1995, deuxième cours.
La négation de l'enfant est-elle la manifestation de l'éveil de l'intelligence ou le mouvement de l'éveil de l'intelligence? Je crois que c'est la manifestation de l'éveil de l'intelligence qui, cet éveil de l'intelligence, implique d'une certaine manière, voyez, le premier appétit de l'intelligence. La négation est un acte d'intelligence. Et un acte d'intelligence qui peut être très, je dirais, au point de vue de son contenu, très pauvre. Mais c'est un acte d'intelligence qui donc manifeste l'éveil de l'intelligence. Si un acte d'intelligence, l'acte d'intelligence est intérieur, hein. C'est pour ça que je ne sais pas à quel moment mon intelligence a fonctionné. Je ne peux manifester le point de départ de mon intelligence que par sa manifestation. Par la parole. La parole manifeste la vie d'intelligence. Et donc la négation, acte d'intelligence. Et cette négation, elle est dite. Manifeste donc qu'il y a un acte d'intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait premier. Alors, la négation, acte d'intelligence. Est-elle l'intelligence spéculative ou pratique? Elle est l'intelligence pratique. L'enfant nie dans l'obéissance. C'est toujours à l'égard d'un acte d'obéissance que l'enfant nie. C'est pas. Alors, la négation existe du côté spéculatif comme du côté négatif. Donc, elle est manifestation d'une intelligence qui, comment la découvrir en absolu? Or, l'intelligence spéculative, c'est une intelligence qui découle l'absolu de l'intelligence, puisqu'il ne recherche que l'intelligence. C'est la différence avec l'intelligence pratique. C'est pour ça que je crois que c'est la manifestation de l'éveil de l'intelligence spéculative. Je fais le petit geste. Affirme. L'intelligence nie. Ceci tant du point de vue pratique que du côté spéculatif. C'est sûr. L'intelligence pratique, c'est l'intelligence prudentielle. Or, l'intelligence prudentielle se manifeste dans l'obéissance. Et vous voyez, quand j'obéis, je peux obéir avec très peu d'intelligence. On a peur de recevoir une punition. Si tu ne fais pas ça, tu seras privé de dessert. Si tu ne manges pas ta soupe, tu n'auras pas de dessert ce soir. L'intelligence pratique très peu développée, c'est la peur d'être privé du dessert qui commande tout. Parce que c'est du sensible, c'est du visible. C'est ce qui éveille l'affectivité. Donc la négation est pratique ou spéculative. Mais la négation a ceci de particulier, c'est qu'au fond, c'est l'intelligence qui retourne sur elle-même quand elle nie. Quand elle affirme, elle s'appuie sur la réalité. Quand j'affirme quelque chose, ceci est, je m'appuie sur la réalité. Quand je nie, je m'appuie sur moi. Donc, elle retourne sur elle. Et donc, elle découvre à ce moment-là l'absolu de l'intelligence. Or, l'absolu de l'intelligence, c'est l'intelligence spéculative. Oui, le petit maniement. C'est pour ça que je peux dire que la négation, acte de l'intelligence pratique, puisque la première négation, c'est quand la mère demande La négation, elle y est toujours un acte de désobéissance, pratiquement. Je crois qu'elle naît toujours comme ça. Donc elle naît dans le domaine pratique. Et l'intelligence dans le domaine pratique peut être très enfouie. Quand je nie, je retourne sur mon intelligence. Je m'appuie sur mon intelligence. Je m'appuie ni sur la réalité, ni sur l'autorité. Maman, tu dis ça, je le fais. Mais il ne dit pas, mais en pensant ça, on s'appuie sur l'autre. Dans tout acte d'obéissance, on s'agrandit quand on obéit. Puisqu'on s'appuie sur quelqu'un de plus grand que nous, qui a autorité sur nous, donc on s'agrandit. Tandis que quand vous niez, vous ne vous agrandissez pas du tout. Quand vous désobéissez, vous retournez sur vous-même. Par la négation, il y a donc une attitude réflexive de l'intelligence qui se découvre comme un absolu. Et c'est peut-être le point de départ de l'intelligence spéculative. Un signe qu'il y a un éveil. Autrement, je ne pourrais pas dire. Pour nier, il faut pouvoir s'appuyer sur l'intelligence. Mais la subjectivité transcendantale. Là, c'est encore très très nébuleux, hein, c'est évident. Mais c'est quand même dit.
Oui. Il y a le quid de du premier éveil, de la première manifestation de l'éveil de l'intelligence spéculative dans l'affirmation.
Dans l'affirmation.
C'est plus tardif.
C'est plus tardif. C'est beaucoup plus tardif. C'est positif, ça. Là, je prends comme un signe. Je crois que c'est beaucoup plus tardif. C'est la recherche de la vérité. Oui. Et c'est pas négatif, là. T'as dit que là, c'est négatif. Et voyez, et c'est pour ça que je dis manifestation. Je ne dis pas les. Vous voyez, la manifestation qu'il y a en nous, un éveil d'une intelligence spéculative. D'intelligence qui commence à comprendre son absolu.
Oui, mais l'éveil dans la recherche de la vérité, il est quand même très caractéristique.
Ah oui, c'est tout à fait, c'est caractéristique et c'est beaucoup plus tardif. Je crois que celui-là se fait très vite. Et l'enfant, suivant l'autorité, va se mettre à jouer avec l'autorité. Pour savoir jusqu'où il peut aller. Il saura très bien qu'arrivé à un certain temps, quand il affirmera 10 fois la même chose, il comptera pas, mais 10 fois la même chose, la mère cédera. Alors, ça y est, on a le levier de commande. On a tous fait ce petit jeu, quoi. On n'était pas très conscients. Mais on l'a fait quand même. Vous voyez, alors, manifestation de l'éveil. De l'intelligence spéculative, c'est-à-dire, il faudrait peut-être mieux dire de l'intelligence dans son absolu. Et c'est à partir de là que l'intelligence spéculative pourra se développer d'une façon positive plus tard. Mais quand même, quand l'enfant pose la question « qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Est-ce qu'il y a un certain éveil ? Gosse revenant, alors là c'est un peu plus tardif, du cours d'arithmétique à rien. Je prends des exemples qui m'ont été donnés de mère et qui les ont frappés parce que c'était pas tout à fait normal. Là c'était plus, je sais pas à quel âge on fait le premier cours d'arithmétique, vous devez le savoir, vous. 9 ans, 10 ans, oui. Ce gosse qui dit à sa mère le maître s'est trompé, c'est un imbécile. Il a dit 1 et 1, 2. Or, 1 et 1, c'est 1. Ça, c'est pas pratique, c'est spéculatif, ça. C'est l'intelligence arithmétique. Or, l'intelligence spéculative s'éveille en premier lieu du côté de l'arithmétique. L'éternité, le temps, la négation. sciences spéculatives, philosophiques, mais c'est mathématique. Alors la mère, quand le gosse prend son bain, l'envoie une balle. Une seconde balle, tu vois, une balle plus une balle, ça fait deux balles. Ah, il n'a pas dit ça, il a dit un et un. Mais, alors moi je crois que le gosse, n'aimant pas le maître, veut trouver le maître en défaut. Je crois, oui, c'est la complicité de l'affectivité pour l'éveil de l'intelligence. Quand on, c'est connu que vous, en temps de guerre, l'intelligence se développe bien plus vite qu'en temps de paix. En temps de paix, les gens dorment. En temps de guerre, les gens sont affolés, ils s'éveillent. Alors à ce moment-là, ils cherchent. C'est pour ça que Héraclite dit que la guerre est la pire de toute chose. En temps de lutte, oui. Quand on a un professeur qu'on n'aime pas, on le cherche à le prendre en défaut. Donc on est éveillé. Alors il a tout de suite compris 1 et 1, 2, non, 1 et 1, 1. L'identité au niveau de l'être. Alors, est-ce que c'est là? Ce point de vue spéculatif, c'est très très mystérieux. Moi, je crois que je suis un enfant croyant. L'éveil de l'intelligence spéculative, l'intelligence pratique, se fait bien plus vite. À cause de l'acte de foi. Bon. Alors, gardons ça. Pour aider l'enfant à dépasser cette négation et cette rupture qui est de l'intelligence, ne faut-il pas, au-delà d'un rapprochement affectif, parler à l'enfant, lui expliquer pourquoi on a pris telle décision, on a fait tel choix, éclairer son intelligence sur la finalité, lui expliquer le sens de l'obéissance et lui demander pardon si on s'est trompé. Tout à fait juste. Je crois qu'il faut expliquer. Et surtout pas rester sur le volontarisme. Tu n'as qu'à obéir. Expliquer. Parce que c'est au fond un appel. La négation peut être un appel. Mais c'est pas toujours, mais ça peut être un appel. On nie parce que on cherche quelque chose d'autre. Et alors à ce moment-là, on doit expliquer. Et pour ne pas faire de refoulement intellectuel, je crois que c'est nécessaire. Dans un regard de théologie morale, ne faudrait-il pas dire que la première faute d'orgueil de l'enfant n'est pas dans la négation elle-même, mais dans le retour sur soi qu'elle peut entraîner. Oui, je n'ai pas parlé de faute, hein. Mais vous avez le droit d'en parler, hein. C'est évident, moi, du chrétien. Je ne veux pas dire que toute négation de l'enfant est une faute. Je crois que génétiquement, chez l'enfant, la première faute est du côté de l'obéissance. Je crois. Et ce n'est que plus tard qu'il y a faute d'orgueil. La faute d'orgueil est première chez les anges et chez Adam et Ève, qui sont des êtres parfaits. Tandis que nous, nous sommes des êtres qui appliquons à devenir. Donc on devient parfait quant à son intelligence. Et donc ce premier moment de la négation est encore très imparfait dans le développement de l'intelligence. Et je ne crois pas qu'il est le signe de l'orgueil. Il est peut-être le signe d'une mauvaise humeur, mais pas de l'orgueil. Ordinairement, celui qui est orgueilleux n'est pas de mauvaise humeur. L'orgueil, alors que vient après. Alors, des négations successives peuvent entraîner ce repliement sur soi, et dans ce repliement sur soi, une exaltation de soi. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir l'orgueil. Comment, en pratique, distinguer les deux? Ne peut-il pas y avoir un éveil de l'amour spirituel sans qu'il y ait un premier acte de négation? Oui, oui, l'acte de négation n'est pas nécessaire pour le dépassement du visible à l'invisible. Mais, de fait, étant donné le péché originel, la négation et sûrement un levier qui fait passer du visible à l'invisible. Mais c'est pas nécessaire. L'enfant peut, s'il aime beaucoup sa mère, vous voyez, l'amour qu'il a pour sa mère est bien avant la négation. Et l'amour qu'il a pour sa mère est un amour sensible, c'est sûr, mais en même temps spirituel. Il aime sa personne. C'est la personne de la mère qu'il aime. Évidemment, la mère peut répondre d'une manière, ça c'est très mauvais, peut répondre d'une façon purement sensible. Donc enferme l'enfant. Mais si la mère est vraiment mère, elle éveille l'enfant vers un amour plus spirituel. Parce qu'elle-même l'aime d'une manière spirituelle. Elle aime dans le petit bonhomme quelque chose, ou la petite bonne femme, quelque chose qui peut s'élever, qui peut aller plus loin. Mais la mère qui fait sourire l'enfant, le sourire est quelque chose de spirituel. De l'enfant pour la mère est antérieur à la négation. Alors, c'est là où c'est intéressant à noter, parce que ça montre que le développement affectif est premier. Puisque si l'amour de la mère est antérieur à la négation, et si la négation est quelque chose qui permet de passer du visible à l'invisible, on voit bien que l'amour de l'enfant pour sa mère est premier. Et quand cet amour n'existe pas, il y a un arrêt dans le développement d'intelligence. C'est pour ça que c'est si important que la mère soit éveillée vis-à-vis de l'enfant dans son amour. Qu'elle capte l'amour, qu'elle le suscite et qu'elle le capte. En répondant à un amour. Si elle ne répond pas, il y a un repli. Alors, qui peut faire que l'enfant, à partir de là, ne sera comme coupé, et sera replié sur lui-même, et cherchera en lui-même sa joie dans tous les repliements qui peuvent aller très loin. Parce qu'il n'y a pas eu de réponse suffisamment vraie de la mère. En raison de la fatigue, en raison de l'occupation, en raison de... C'est très important le début, n'est-ce pas? Puisque les psychologues considèrent que les trois premières années, au bout des trois premières années, la psychologie de l'enfant est fixée. Je ne crois pas que c'est entièrement vrai. Je ne crois pas. Parce que les psychologues ne voient que le point de vue du conditionnement. Alors que le conditionnement soit fixé, c'est possible. Mais pas l'éducation, puisque l'éducation c'est l'éveil de l'intelligence. Et l'éveil de l'intelligence peut se faire tout le temps. Quelqu'un qui est plein de refoulement en raison de sa première éducation, quel est le grand moyen d'en sortir? C'est par l'intelligence. Beaucoup plus que par l'affectivité. Par l'intelligence qu'il faut en sortir. Parce que l'intelligence, vous voyez, au sens strict, l'intelligence n'a pas de refoulement. des arrêts, mais pas de refoulement. Les refoulements sont affectifs. Il y a des négations, mais la négation en elle-même n'est pas un refoulement. Il y a des mauvaises humeurs qui viennent de la négation, mais ils ne sont pas des refoulements. Alors là, la psychanalyse n'a pas fait la distinction. J'ai demandé à mes psychanalystes freudiens s'ils faisaient la distinction entre la négation et le refoulement. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais pensé le problème. Parce que le refoulement est affectif. Tandis que la négation n'est pas affective. C'est intellectuel. Et le seul moyen, alors là j'en suis sûr, le seul moyen de dépasser les refoulements, et on peut toujours les dépasser, c'est plus difficile évidemment quand on arrive à avoir 25 ans, 30 ans, que quand on a 15 ans. Mais le grand moyen de dépasser les refoulements, c'est l'éveil de la délivrance. C'est donc la philosophie. La philosophie permet à l'intelligence de retrouver son autonomie et de relativiser les refoulements. Tous les refoulements sont relatifs, ça n'a jamais d'absolu. Alors on peut les dépasser. Si le refoulement était un absolu, on ne pourrait pas. Mais ce n'est pas un absolu. C'est la mauvaise humeur, le refoulement. Les arrêts, voie sans issue. Alors, on se le nez là-dedans. Et on est obligé de retourner machine arrière. Alors, continuons. Ben, c'est du pointillé que je fais avec vous. Hein. Parce que c'est très difficile. Et j'aime pas trop, du reste, parce que je crois que c'est impossible. Là, c'est le second point que je voudrais développer maintenant. C'est que l'éveil de l'intelligence spéculative, ce qui nous intéresse doublement, qui nous intéresse au point de vue philosophique, mais est-ce qu'il nous intéresse au point de vue éducatif? Pour que l'éducation puisse se faire, il faut qu'il y ait une philosophie. Pour que l'éducation puisse se faire vraiment comme un art, ce n'est pas la science psychologique qui est le fondement de l'art de l'éducation. Ça peut être farouche là-dessus. Et aujourd'hui, pour beaucoup, fondement de leur pédagogie, c'est la psychologie. Bien ça, c'est une erreur. Peut-être farouche là-dessus. Alors, surtout pas que ça pénètre dans l'école Saint-Jean. Surtout pas. Qu'on dise qu'on n'est pas très philosophe, alors si on n'est pas très philosophe, on se rejette sur la psychologie. Parce que c'est plus facile, c'est descriptif. Tout le monde peut faire de la psychologie si on est un tout petit peu doué. Cette phrase avance, t'es comme ça, tu vois. Je voyais à Fribourg, à côté des cours de philosophie, il y avait les cours de pédagogie et de psychologie. Et la pédagogie était soumise à la psychologie. Comme j'ai entendu les cours de pastorale fondés sur la sociologie. J'ai vu ça à Fribourg. Et j'ai assisté à ces cours sociologiques en me cachant pour voir ce qu'on disait. Pour voir si vraiment on pouvait fonder une pastorale sur la sociologie. Parce que celui qui était chargé de la pastorale, un abbé, était un sociologue. Alors on l'avait invité à faire des cours de sociologie. l'environnement de la pastorale. C'est faux. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est faux. On ne peut absolument pas fonder la pastorale sur la sociologie. Mais que ce soit intéressant, la sociologie, comme la psychologie, d'accord, c'est intéressant. Venez. Quand on ne comprend pas la philosophie, on sera pas là-dessus. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que ça a tant de vigueur, mais on ne peut pas fonder une éducation sur la psychologie. Et vous voyez tout de suite pourquoi. Si l'éducation implique nécessairement la finalité, je sais où j'éduque. C'est un art qui implique la finalité. Mon éducation n'a pas d'autre rôle que de permettre à l'homme d'être une personne humaine finalisée. Or, la psychologie ne me dit rien sur la finalité. Donc, elle ne peut pas être le fondement d'une pédagogie et d'une éducation. Elle peut m'aider à ne pas faire telle ou telle erreur. Ça oui. Elle peut m'aider pour voir qu'il y a certains dangers et être alerté sur ces dangers. Mais je ne pourrai dépasser ces dangers que grâce à la finalité. Donc grâce à la philosophie qui donne l'intelligence de la croissance de l'intelligence et de la croissance de la volonté. Puisque le point de vue psychologique ne peut pas me dire ce qu'est la vérité, ce qu'est l'amour. Peut-être farouche là-dessus. Pour ne pas perdre de temps. Et surtout pour ne pas mettre des gens qui nous écouteraient. Ils sont de Saint-Jean, ils doivent avoir la vérité, qui nous écouterait et qui irait dans des fausses pistes. Mais c'est très bien la psychologie, mais dans un domaine très restreint et très particulier. Pour quelqu'un qui déraille, bon, un psychologue peut le rendre plus conscient de l'endroit où il déraille. C'est toujours la même chose. Les déviations sur les autos, du moins, les déviations sur une route. Vous oubliez le soir, la nuit, de voir qu'il y a déviation. Là, vous vous trompez. Vous apercevez tout d'un coup, vous êtes obligé de revenir en arrière au moment où il y avait la déviation. C'est exactement comme ça. La psychologie me montre que je suis sur une fausse piste. Il faut donc revenir au moment où il y a eu la déviation. Pour reprendre une autre route. Mais c'est pas la psychologie qui me fera voir l'autre route qu'il faut prendre. C'est-à-dire en bon sens. Non, la philosophie. Qui montrera le point de vue de la finalité. Alors, je veux insister sur cet autre point. Que l'artiste comprend tout de suite. Et que le scientifique ne comprend pas assez. C'est que la croissance, l'éducation, c'est l'aide à la croissance d'un vivant. Ars coadjuvans, naturam, d'un vivant, et d'un vivant spirituel, intellectuel et spirituel, d'un vivant qui est un homme. Et c'est la matière que j'éduque qui matière que j'éduque qui est dans cet état de croissance. Or, cet état de croissance est très, très différent selon chaque individu. Déjà, la croissance biologique est différente. Et la croissance humaine est encore plus différente. La croissance de l'intelligence, la croissance de la volonté sont très différentes pour chaque individu. Je ne peux pas dire que l'éveil de l'intelligence spéculative sera un tel âge. Je peux dire qu'il sera entre eux. Ça oui. Mais à quel moment avez-vous eu conscience d'une recherche de la vérité? Je crois que si vous êtes loyal, je ne sais pas. Je ne crois pas que vous avez eu conscience de ça. Mais maintenant, vous êtes conscient d'avoir. Alors, vous pouvez remonter. Ou vous pouvez dégringoler l'escalier. Oui, c'est exactement parce que vous dégringolez à la cave, au sous-sol. À quel moment avez-vous eu conscience de la recherche de la vérité? C'est très difficile à dire. Parce que vous comprenez que ça vous intéresse le jour où vous avez eu parfaitement conscience de la recherche de la vérité avant. N'avez-vous pas eu conscience? Alors vous pouvez projeter. C'est ce que nous faisons. On projette. Et je n'ai pas eu l'expérience de l'éveil premier de mon intelligence spéculative. Je n'ai pas eu conscience de l'éveil premier de mon intelligence pratique, la prudence. Non. J'ai constaté à un moment donné que j'étais plus ou moins prudent et que j'essayais de l'être de plus en plus. La sagesse, parce que vous pouvez avoir conscience d'un éveil de la sagesse, parce qu'en disant c'est plus tardif, il y a la recherche de la vérité, et puis il y a la découverte de l'être premier. Alors par la foi, on peut avoir, par la foi et le don de sagesse, don du Saint-Esprit, vous pouvez avoir très vite conscience des exigences d'une sagesse divine. Très vite. Mais vous n'éprouvez pas le besoin de le dire. C'est quelque chose de sacré et quelque chose de secret. Et vous n'éprouvez pas le besoin de le dire. Et ordinairement, quand vous le découvrez, vous dites, mais c'est curieux, tout le monde n'a pas ça. Mais comme une fois, quelqu'un m'a raconté cette histoire. Une mère racontait à son enfant comment le petit garçon d'à côté avait dit cette chose étonnante, qu'il avait eu l'apparition du petit Jésus jouant avec lui. Et l'autre dit sa mère, mais c'est normal, maman. Il est avec les petits enfants. Les grandes personnes, non, parce qu'elles ne le voient pas, les grandes personnes. Mais les petits enfants, ils le voient. Alors, sa mère, elle était à s'escouer en disant, alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce que vraiment le petit Jésus jouait avec les petits enfants? Les grandes personnes ne le voient pas, ce qui est tout à fait normal. Hein, parce qu'il ne vient pas pour les grandes personnes, il vient pour les petits-enfants. Donc il est invisible pour les grandes personnes, il est visible pour les petits-enfants. Et les petits-enfants sont tellement habitués de le voir, tout ça normal. Alors, on peut être complètement sceptique et dire tout ça c'est d'imagination. Et on peut dire mais non. en dehors du point de vue de l'éducation. Je peux pas éduquer en disant bah, l'enfant, le petit Jésus joue avec toi, il est là auprès de toi. Non, on monte dans la foi. Il y a quelqu'un qui te regarde tout le temps. Faut pas trop m'affirmer parce que l'enfant serait gêné. Hein, il y a quelqu'un qui te regarde tout le temps. Il y a un pion qui te regarde tout le temps. Il y a un gendarme qui est là tout le temps. Qui est là. Alors, dès que tu fais quelque chose, immédiatement. C'est pas bien, non. Il faut beaucoup mieux dire que quand tu fais quelque chose, Dieu te regarde. Quand tu fais le mal, c'est autre chose. Ça n'intéresse plus Dieu. Ce qui est beaucoup plus vrai. Dieu nous voit quand nous faisons le bien et nous tombons dans les ténèbres quand nous faisons le mal. Mais ce qui est sûr, vous voyez, c'est que l'éducation, l'éveil, donc la croissance de l'intelligence et de la volonté sont très très différents pour chacun d'entre nous. Ce qui augmente les difficultés de donner certaines règles d'éducation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ce qu'on peut faire alors, c'est d'essayer de voir tous les éveils nécessaires pour une bonne pédagogie, éducation. Ça oui, on peut le faire. Bref, si c'est la date, très difficile. On peut préciser, je crois, étant donné que le développement biologique est un peu développé, et que ce développement biologique entraîne des conséquences au niveau psychologique, et certaines luttes, certaines difficultés, alors on peut noter ces changements, et voir que dans la croissance de l'intelligence, et dans la croissance de l'amour, ça peut avoir certaines interférences qui ralentissent et qui quelquefois éteignent. Ça arrive. Oui. Alors, c'est peut-être cela qu'on doit faire au plan philosophique. Oui. C'est ce problème qu'on a vu la dernière fois et qu'on voit aujourd'hui. Saisir l'éveil de l'intelligence pratique, la prudence. Saisir cet éveil-là. Saisir par le fait même l'éveil de l'imaginaire. L'éveil de l'instinct. L'éveil des tendances anarchiques. Au niveau du concupiscible à l'égard du bien sensible, à l'égard d'une nourriture que l'enfant aime et qu'il aime d'une façon telle qu'il exclut le reste pour pouvoir manger uniquement de ce qu'il aime. C'est la grande tactique, ça. Et à ce moment-là, il refuse parce qu'il aime telle chose et qu'il veut l'avoir absolument. Ça, c'est le concupiscible qui s'éveille. Et ça explique des quantités de choses. Est-ce que la négation par rapport à la nourriture ne provient pas après le moment de ça? Je me demande. Ça peut très bien provenir de ça. Alors, on voit toujours d'autres motifs. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Parce qu'on peut très bien les caprices. C'est ça les caprices, c'est ça qu'on dit les caprices de l'enfant. Il a pris quelque chose de très très bon. Il voudrait le revoir tout le temps. Alors il exclut le reste pour qu'on lui donne ça. Il n'ose pas avouer, mais c'est ça qu'il aime. Alors il exclut le reste. Et alors il tombe à attitude négative à l'égard de la nourriture. L'attitude négative à l'attitude à l'égard de la nourriture mène à ce fait que on s'amaigrit volontairement. Et il y a une espèce de haine vis-à-vis du corps. Mais ça provient, vous voyez, d'un bien refoulé. Et tant qu'on n'a pas redécouvert ce bien refoulé, pas comment de lutter. Alors ça, au point de vue humain, il faut découvrir pour chacun. Parce qu'il y en a qui aiment les carottes, qui aiment les navets, il y en a qui ont horreur des navets, et qui aiment les... et ainsi de suite. Hein, c'est très curieux, le goût des enfants. Et c'est bon qu'ils le disent. Ne pas le dire, ça empêche de pouvoir faire une éducation qui est bonne. Parce que Dieu a donné des goûts différents. Il y en a qui aiment le lait, et des enfants qui ne l'aiment pas. La crème. Des enfants qui ne peuvent pas supporter la crème. Et ça reste longtemps, ça. C'est très curieux, ces choses-là. C'est des choses qui sont très étonnantes. Et inférées à partir de l'old caractère, le tempérament de chacun. Non. C'est biologique. Alors ça a des conséquences psychologiques. Mais je ne crois pas que ça a beaucoup de conséquences sur l'éveil de l'intelligence. Or, au point de vue éducatif, la chose principale